France Info.
Bonsoir, bienvenue donc sur France Info dans cette édition spéciale. Pourquoi édition spéciale? Car le président américain Donald Trump va s'exprimer dans quelques minutes. Hein. C'est un homme normalement ponctuel, mais là non, il déborde de 3 minutes. À propos de sa décision de se retirer ou non du fameux accord sur le nucléaire iranien et ses conséquences sur les relations entre l'Iran et le reste du monde. Et pour en parler ce soir, nous trouvons donc la chef du service monde de France Info, Isabelle Labéry. Bonsoir.
Bonsoir.
Également Éric Scholl, bonsoir. Bonsoir. Directeur de courrier international. Et le spécialiste des États-Unis, chercheur, associé à l'IRIS, Jean-Éric Brana. Bonsoir.
Bonsoir.
J'en profite pour dire que vous sortez un livre, 1968, Quand l'Amérique gronde. C'est aux éditions Priva. Donc, dans quelques instants, normalement, Donald Trump, pour l'instant, il y a un plan fixe hein, sur une porte du bureau ovale. Il va s'exprimer devant des caméras pour savoir si les États-Unis sortent ou non de cet accord iranien. Isabelle Labéry, vous avez suivi ça, vous, toute la journée pour France Info. Pourquoi, voilà, presque, en effet. Pourquoi, aujourd'hui, tout le monde est suspendu à cette décision?
Parce que Trump va peut-être comme il l'a déjà fait dans d'autres dossiers, tenir une de ses promesses de campagne. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il raisonne d'abord par rapport à son corps électoral. Il s'est engagé dès la campagne à mettre à terre cet accord qui était un mauvais accord. On se souvient même des termes assez familiers dans lesquels il avait évoqué ce texte-là. C'est une obsession de la droite américaine, une obsession de Donald Trump. C'est un mauvais accord. Les États-Unis n'ont aucun intérêt à le maintenir, ni d'un point de vue économique, ni diplomatique. Donc, il est là pour faire ce qu'il avait dit, en quelque sorte.
Oui, alors, Éric Scholl, pourquoi c'est un mauvais accord pour Donald Trump? Il parle toujours de milliards de dollars à propos de cet accord. Pourquoi?
Il y a plusieurs choses. Alors, la raison pour laquelle, pour lui, c'est un mauvais accord, c'est parce que cet accord a permis à laisser du temps, finalement, à l'Iran et que l'Iran peut renforcer son économie. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est que l'Iran va être encore plus forte et devient un ennemi sur beaucoup d'autres aspects, parce que l'accord concernait le nucléaire, mais lui voit bien d'autres aspects en dehors du nucléaire sur lesquels l'Iran est dangereuse. Et c'est en fait, et on rejoint là une logique des conservateurs américains, c'est-à-dire l'Iran fait partie de l'axe du mal.
C'est ça. Alors Jean-Éric Brana, quand on parle de ça, c'est assez étonnant, parce qu'on a l'impression qu'il y a une diplomatie un peu vintage de la part de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il nous parle de Cuba, de l'Iran, de Venezuela. Vraiment, on a l'impression d'être un retour aux années 80. Pourquoi il pointe l'Iran comme ça? On avait l'impression que l'Iran, voilà, il y avait des efforts en ce moment.
Oui, on a vu qu'il nous a redessiné le monde de façon assez simpliste depuis sa première visite à Riyad. Il a fait une ligne entre Rabat et Riyad en expliquant d'un côté les sunnites, de l'autre les chiites. Et effectivement, je vais reprendre exactement la même expression, mais qui est celle de Donald Trump et qui vient de George Bush, l'axe du mal qui a été redéfini. Ce n'est pas rien, ça veut dire qu'il y a des gentils, il y a des méchants sur cette terre, et que Donald Trump est bien sûr du côté des gentils dans son esprit, alors qu'il faut combattre les méchants, ceux qui en veulent à l'Amérique.
Il réagit vraiment comme ça, de manière binaire?
Mais évidemment, mais tous les Américains réagissent comme ça, sans porter offense à qui que ce soit, puisque c'est une société religieuse qui estime effectivement qu'il y a des gens qui sont mauvais et qu'il faut les combattre. Donc c'est ce qu'ils vont faire, mais pas à n'importe quel prix, puisque pas au prix de l'argent, par exemple. Ce qu'il peut économiser, il va le faire. C'est le moteur de son action, il l'a expliqué. C'est le moteur d'Amérique, l'Amérique d'abord.
Ouais.
Donc il a promis à ses électeurs qu'il n'irait pas partout sur la planète disséminer comme l'ont fait ses prédécesseurs. Les contribuables sont les payeurs de tout cela. Et il a expliqué que l'argent devait d'abord rester dans leur poche.
Oui, Éric Scholl.
Oui, je crois qu'il y a une raison peut-être supplémentaire. Isabelle Labéry a eu raison tout à l'heure de rappeler qu'effectivement, cet accord, ça faisait partie de... C'était une promesse électorale. C'est aussi effectivement l'Iran et l'axe du mal. Mais c'est aussi un accord qui a été fait par Barack Obama. Et Barack Obama, c'est... Il faut absolument défaire tout ce qu'il a fait sur le plan intérieur, sur le plan extérieur. Sur le plan intérieur, il a essayé de le faire avec l'Obamacare, sans forcément y arriver. Et puis, évidemment, sur le plan extérieur, il s'agit de défaire sans doute la principale réalisation de Barack Obama en termes de diplomatie.
C'est ça, Isabelle Labéry, on est aussi dans une question de politique intérieure américaine, là.
Bien sûr, c'est ce qu'on disait, mais alors autre chose, c'est qu'on est aussi dans une séquence diplomatique importante pour Donald Trump. Il y a dans quelques jours l'installation de l'ambassade américaine à Jérusalem.
Lundi.
Et surtout, ce fameux sommet dont on ne connaît encore ni la date ni le lieu avec Kim Jong-un en Corée du Nord. Alors, c'était l'axe du mal, mais c'est quand même devenu des grands copains. Et on est aussi là un peu, je pense que le vrai dossier qui compte pour Donald Trump, c'est davantage le dossier nord-coréen que le dossier iranien. Mais aujourd'hui, montrer sa fermeté sur l'accord nucléaire iranien, c'est aussi dire aux Nord-Coréens, regardez, moi je ne veux pas d'un accord bancal, regardez ce que je suis capable de faire, et j'arrive un peu en position de force à Pyongyang ou ailleurs quand on va discuter du dossier nucléaire nord-coréen. Je pense qu'il faut aussi lier les deux.
On est là-dedans, si Jean-Éric Brana, c'est-à-dire en gros, les sanctions ont pu fonctionner pour la Corée du Nord, donc forcément ça fonctionnera au Proche et Moyen-Orient.
Oui, le message qui est envoyé ce soir aux Américains, c'est « je fais exactement ce que je vous ai dit que j'allais faire ». Donc vous avez acheté ce que je vous ai vendu et pas autre chose. Et ça, effectivement, il nous l'a survendu. Donc il va enfoncer le clou ce soir. N'oublions pas qu'il y a des élections en novembre et que ce soir, c'est d'abord ce qu'il y a dans toutes les têtes. Et il s'adresse en particulier aux conservateurs qui ont repris le pouvoir aux États-Unis, qu'il est en train d'asseoir dans le pays. Et c'est bien sûr, on a parlé de cette Amérique profonde depuis qu'il est là, à de nombreuses reprises, elle est plus si profonde que ça. Aujourd'hui, elle est bien devant cette Amérique et c'est elle qui l'a réinstallée devant. Donc, c'est pas simplement l'héritage de Barack Obama, même si bien sûr ce qu'il a détricoté tout de suite, mais c'est tout l'héritage progressiste qui vient des années 68. C'est d'ailleurs vous avez la gentillesse de parler de mon livre, mais c'est exactement ce que j'ai écrit puisque je le ramène à 2018 et j'explique ce que fait Donald Trump. Il va chercher depuis 68 tout le progressisme qui a été installé ces années-là et il le redémonte parce que c'est ce que lui ont demandé ses électeurs.
Alors Isabelle Lavery, rapidement, on va parler bien sûr dans un instant aussi de ses alliés européens. Ce soir, on sait à 19h30, tout à l'heure, Emmanuel Macron a joint par téléphone Theresa May, première ministre britannique, et Angela Merkel, chancelière allemande. Ce soir, ils sont quoi? Ils sont désappointés? Ils s'y attendaient? Ils sont comment, déçus?
Alors, je pense qu'il s'y attendait parce que en revenant de Washington, Emmanuel Macron n'était pas d'un triomphalisme évident. Il avait tout tenté, c'est-à-dire de conserver cet accord existant et de lui adjoindre des modifications. C'était la seule façon de maintenir les États-Unis dans cet accord. Il avait bien conscience que ça ne fonctionnait pas, qu'il n'y était pas arrivé. Après, il était quand même en première ligne parmi les Européens. C'est l'un des seuls grands acteurs du dossier, puisque l'accord a été négocié avec les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, plus l'Allemagne. Il est allé au front, mais ça n'a pas fonctionné. Donc oui, déception et surtout inquiétude sur la stabilité de la région et sur la nature des relations entre l'Union européenne et les États-Unis sur un point commercial. Ça risque de prendre un petit coup fraîcheur.
Voilà, on va continuer à parler de ça dans un instant. On aura bien sûr la déclaration de Donald Trump qu'on attend d'une minute à l'autre. L'info à 20h10, Lauriane Delanoë.
Les caméras braquées sur un pupitre de la Maison-Blanche. Donald Trump doit annoncer dans les prochaines minutes si les États-Unis sortent ou non, ou avec nuance, de l'accord sur le nucléaire iranien. Ultime tentative des Occidentaux cet après-midi pour tenter de préserver l'actuel traité. Appel par exemple d'Emmanuel Macron, mais le président américain ne lui a pas dévoilé son intention d'après l'Élysée. La moitié des trajets en TGV, TER et Transilien assurés demain pour la 16e journée de la grève contre la réforme de la SNCF. Un train sur trois pour les intercités, c'est un peu plus qu'aujourd'hui. Un élu du Var soupçonné d'avoir agressé un installateur de contrôle de compteurs électriques Linky. C'est ce que révèle France Bleu Provence ce soir. Le conseiller municipal de Bagnols-en-Forêt aurait asséné un coup de tête au technicien il y a près d'une semaine avant de lui arracher son badge. Nœud papillon et robe cocktail à Cannes. La cérémonie d'ouverture de la 71e édition du festival en cours. Après la présentation du jury, c'est le film d'Ashgar Farhadi, Everybody Knows, qui sera projeté. Et sur le parvis du Stade de France, des poignées de main, des saluts chaleureux entre les supporters des Herbiers et ceux du Paris Saint-Germain, finale de la Coupe de France de football tout à l'heure entre le club vendéen de National et le PSG. Coup d'envoi dans moins d'une heure à 21h05.
France Info.
France Info, édition spéciale. Jean-Mathieu Pernin.
Édition spéciale sur France Info, car nous attendons d'une minute à l'autre la déclaration de Donald Trump concernant la sortie ou non, vous savez, de cet accord nucléaire iranien. Alors sur place, à Washington, nous allons rejoindre notre correspondant, Grégory Phillips, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alors on voit sur des images, des caméras, des journalistes totalement crispés, on peut imaginer qu'il y a une certaine tension, non, en ce moment, sur place.
Oui, Oui, vous savez que Trump aime ça, entre guillemets. C'était la même chose hein, pour le retrait des accords de Paris sur le climat. Il avait dit « je rendrai ma décision à telle heure », etc., faisant monter le suspense. Ben là, c'est pareil. Il l'a annoncé hier dans un tweet et il a dit « à 14h, heure de Washington, vous connaîtrez ma décision ». Donc tous les journalistes américains et internationaux sont évidemment à l'aguet. Le pupitre est dressé dans la « diplomatic room » de la Maison-Blanche qui porte bien mal son nom si on en croit les toutes dernières informations, puisque la plupart des grands médias américains annoncent depuis une vingtaine
alors,
de minutes.
Grégory, je vous interromps juste parce que Donald Trump, justement, va s'exprimer. À l'instant, on écoute le président américain.
Aujourd'hui, je veux mettre le monde à jour de nos efforts pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Le régime iranien est le principal parrain du terrorisme. Il exploite des missiles dangereux, alimente les conflits au Moyen-Orient et soutient les terroristes, les milices telles que l'Hezbollah, Hamas, les talibans et Al-Qaïda. Au fil des ans, l'Iran et ses assistants ont bombardé des ambassades américaines et des installations militaires américaines en tuant des centaines d'Américains et ils ont kidnappé, emprisonné et torturé des citoyens américains. Le régime iranien a financé le terrorisme et le chaos en volant la richesse de son propre peuple. Aucune action prise par le régime n'a été plus dangereuse que sa recherche de l'arme nucléaire et des moyens d'utiliser les armes nucléaires. En 2015, le précédent gouvernement américain et d'autres nations a signé un accord avec l'accord iranien. Cet accord iranien devait protéger les États-Unis et ses alliés de l'arme nucléaire iranienne qui mettrait en danger sa survie du régime de l'Iran. Cet accord a permis à l'Iran de continuer à enrichir l'uranium et à atteindre la capacité à créer une arme nucléaire. Donc, cet accord a permis à l'Iran de ne pas avoir des sanctions économiques. Et donc, cela n'a pas permis de limiter les autres activités sinistres de l'Iran en Syrie, au Yémen et dans d'autres parties du monde. En d'autres termes, lorsque les États-Unis avaient le maximum d'influence sur l'Iran, cet accord désastreux a donné au régime, et c'est un régime de terrorisme, des milliards de dollars pour une partie en cash, et ça a été embarrassant pour moi en tant que citoyen américain et pour tous les autres citoyens américains d'approuver cet accord. Cet accord aurait pu être un autre accord, aurait pu être signé, mais il n'a pas été signé. Au cœur de l'accord avec l'Iran, il y avait une fiction. Un régime meurtrier voulait la paix, mais ce n'était pas vrai, c'était un mensonge. Aujourd'hui, nous avons prouvé que cette promesse iranienne a été un mensonge. La semaine dernière, Israël a publié des documents de renseignement qui montrent que le régime iranien et son histoire a un historique de recherche d'armes nucléaires. Et donc, c'était un accord unilatéral qui n'aurait jamais dû être signé. Et ça n'a pas apporté la paix et ça ne l'apportera jamais. Depuis que l'accord a été signé, le budget militaire de l'Iran a augmenté de 40%, tandis que son économie va de plus en plus mal. Après que les sanctions aient été levées, ils ont été capables de développer des missiles pour soutenir le terrorisme et provoquer la pagaille au Moyen-Orient. Donc, même si l'Iran se conforme avec l'accord, le régime pourrait en fait, obtenir rapidement l'arme nucléaire, même s'ils ne respectent pas l'accord. Donc, les provisions, les clauses de caducité ne sont pas valables. Si je permettais cet accord, si je signais, si je certifiais cet accord, eh bien, l'Iran aurait les armes nécessaires pour ses objectifs. Pour aggraver les choses, les contrôles nécessaires pour empêcher les Iraniens de tricher sont insuffisants. Et il n'y a pas le droit d'inspecter des sites sensibles, y compris des équipements et des sites militaires. Donc, non seulement l'accord n'a pas freiné les ambitions nucléaires de l'Iran, mais il n'a pas empêché le régime de développer des missiles balistiques capables d'envoyer des têtes nucléaires. Donc, cet accord n'empêche pas l'Iran de déstabiliser le monde et de soutenir le terrorisme. Depuis l'accord, l'ambition de l'Iran sont devenues de plus en plus déplorables. Et j'ai annoncé en octobre dernier que l'accord avec l'Iran devra soit être arrêté, soit renégocié. Le 12 janvier, j'ai répété ces conditions. J'ai clairement indiqué que si un accord ne pouvait pas être renégocié, les États-Unis se retireraient de cet accord. Et depuis quelques mois, nous avons discuté beaucoup avec nos alliés et nos partenaires à travers le monde, y compris la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Et nous avons également consulté nos amis au Moyen-Orient et nous sommes unis et nous savons quelle est la menace. Et nous sommes convaincus que l'Iran ne devra jamais acquérir des armes nucléaires. Après ces consultations, il me paraît clair que nous ne pouvons pas empêcher la bombe nucléaire iranienne en vertu de l'accord pourri qui a été signé. Donc, l'accord iranien est fondamentalement vicié. Donc, si nous faisons rien, nous savons exactement ce qui se passera. En très peu de temps, le principal parrain du terrorisme sera sur le point d'acquérir l'arme la plus dangereuse au monde. Par conséquent, j'annonce ce soir que les États-Unis vont se retirer de l'accord nucléaire iranien. Dans quelques instants, je vais signer l'ordre présidentiel pour remettre en place les sanctions contre le régime iranien. Nous allons mettre en place le niveau le plus élevé de sanctions économiques possibles. Toute nation qui aide l'Iran à acquérir les armes nucléaires pourrait aussi faire l'objet de sanctions par les États-Unis. L'Amérique ne veut pas, les États-Unis ne veulent pas être l'otage de l'Iran. Nous n'allons pas permettre aux villes américaines d'être menacées de destruction et nous ne permettrons pas au régime de chanter mort aux États-Unis et pour permettre d'avoir accès à l'arme la plus dangereuse. L'action que j'ai décidé aujourd'hui envoie un message critique. Les États-Unis ne se contentent plus de faire des menaces vides. Quand je fais des promesses, je les tiens. Et en ce moment même, le secrétaire d'État Pompeo est en train de se rendre en Corée du Nord pour préparer ma prochaine réunion avec Kim Jong-un. Les projets sont en place, les rapports sont en train de se développer, un accord va se produire et avec l'aide de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon, l'avenir de prospérité et de sécurité se profile à l'horizon. En quittant l'accord avec l'Iran, nous allons travailler avec nos alliés pour trouver un accord durable et complet, une solution complète et durable à la menace iranienne nucléaire. Et nous allons faire des efforts pour éliminer le programme de missiles iraniens, cesser ses activités terroristes à travers le monde et de bloquer ses activités menaçantes au Moyen-Orient. En attendant, des sanctions puissantes vont être mises en place. Si le régime continue à entretenir ses aspirations nucléaires, il aura plus de problèmes, des problèmes plus graves qu'il n'a jamais connus. Enfin, je voudrais envoyer un message au peuple d'Iran. Le peuple américain est à vos côtés. Cela fait près de 40 ans depuis que cette dictature a pris le pouvoir et qui a pris en otage une puissante nation. Et Iran, qui a prospéré pendant longtemps et a commandé l'admiration du monde, l'avenir de l'Iran appartient à son peuple. C'est le peuple iranien qui est héritier d'une grande culture ancienne. Le peuple iranien mérite un gouvernement, un régime qui est à la hauteur de ses rêves et de son histoire. Les leaders de l'Iran vont dire qu'ils refusent de négocier un nouvel accord avec nous. Ils refusent, et ça c'est très bien. Je dirais la même chose si j'étais à leur place. Mais le fait est qu'ils vont vouloir renégocier cela. Et il faut que cela bénéficie au peuple iranien. Dans ce cas-là, je serai prêt et capable de signer un accord. Des choses formidables pourraient arriver à l'Iran et pour la paix et pour la stabilité que nous voulons tous au Moyen-Orient. Il y a eu assez de souffrance, de mort et de destruction. Il faut que ça cesse maintenant. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Merci.
Voilà la déclaration donc de Donald Trump que vous avez pu suivre en direct sur France Info, franceinfo.fr et sur le canal 27 bien sûr de la TNT. C'est officiel, il le signe là, devant nos yeux, les États-Unis se retirent donc ce soir de l'accord sur le nucléaire iranien. Eric Scholl, un accord, je reprends les termes de Donald Trump, un accord pourri qui a été signé, il est vissé ce soir, nous nous retirons de cet accord. Ça a été une déclaration assez violente, hein, parce qu'il parle de l'Iran comme le parrain du terrorisme.
Vous savez, il y avait deux possibilités où on disait qu'il pouvait y avoir un exit dur ou un exit plus soft, un peu en référence à ce qui se passe en ce moment pour le Brexit. Et il a choisi la façon la plus dure de sortir. Il n'y a pas beaucoup, on est guère surpris parce que c'est sa façon de faire. Néanmoins, ça va quand même poser, enfin, le premier sujet qui est posé, c'est que c'est quand même un accord qui avait été cautionné par les Nations Unies, par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, c'est la parole des États-Unis là qui est engagée et on voit qu'une fois de plus, mais sur quelque chose cette fois-ci qui est très important, qui a pris 15 ans de discussion, 2 ans de négociation, eh bien, ils décident d'en sortir. Pour des raisons, il les a expliquées, il y a des raisons intérieures, il y a des raisons diplomatiques, etc. Mais enfin, il prend une décision qui va mettre en cause aujourd'hui la parole des États-Unis. Et la deuxième chose, c'est les conséquences, évidemment. Maintenant, on va essayer de regarder les conséquences. Conséquences, elles vont être très importantes au niveau diplomatique international, à la fois États-Unis-Europe, États-Unis-Reste du monde, parce qu'il a dit pendant son discours, ce sont mes alliés, on a discuté. Mais on voit bien les divergences, et ces divergences vont être de plus en plus fortes. Il va y avoir des conséquences au Moyen-Orient, parce que les tensions sont déjà très palpables, elles vont être de plus en plus fortes et il ne fait que souffler sur les braises de très fortes tensions qu'on a vues au cours de ces derniers mois. Et puis, je dirais de manière plus générale, il y a évidemment des tensions. Alors, en Iran, parce que comment, qu'est-ce qui va se passer en Iran? L'équilibre politique est très fragile. Donc vous voyez, la situation ce soir est extrêmement... on est dans un monde de tensions et on ne peut pas dire qu'il est... Même si lui est persuadé qu'il va réussir à faire un deal, parce que c'est quand même ce qu'il nous dit à la fin du discours, qui va réussir mieux que son prédécesseur, mais il y a quand même, on est rentré dans un monde extrêmement tendu.
Extrêmement tendu. Jean-Éric Brana, la question, toute simple, hein, vraiment, vous avez parlé tout à l'heure de politique intérieure, mais pourquoi ce soir? Voilà, pourquoi finalement tout ça? On voit un tableau presque apocalyptique des relations internationales, pourquoi?
Alors, pour Donald Trump, la narration est totalement différente, bien entendu, ce n'était pas apocalyptique. Il nous a dit « je me retire pour des raisons de sécurité nationale ». Cet accord n'a pas permis de protéger les États-Unis.
Pour aider le peuple iranien aussi.
Ça vient après, ouais, mais d'abord, je m'occupe du peuple américain. Ça, on l'a entendu pendant la campagne. Je ne m'occupe pas à l'extérieur, sauf pour des questions de sécurité nationale. Donc, c'est très important. On parle effectivement à l'électorat conservateur, le plus solide dans sa base électorale, et il leur dit quoi? pas et leur dit effectivement j'ai agi parce que je suis fort, je suis le président, donc je ne recule pas, ayez confiance en moi, je ne recule jamais quand il faut prendre une décision, vous avez un président solide, ce qui change par rapport à avant. Et on entend également que il a effectivement négocié avec l'extérieur, qu'il a des partenaires solides. Là, on voit que quand on a dit est-ce que Emmanuel Macron s'est fait avoir, quelque part oui, puisque effectivement, ça sert la narration de Donald Trump, qui a pu montrer qu'il a discuté avec les Français, les Allemands et bientôt les Anglais. Et il annonce des choses quand même très importantes. Il nous explique qu'il va remettre des sanctions les plus dures au niveau des lois d'Amato Kennedy de 1996, c'est-à-dire que ceux qui feront du commerce avec l'Iran seront sanctionnés également. À savoir, nous en premier, par exemple, on a vendu une centaine d'Airbus à l'Iran. Donc, chez Airbus, ce soir, on doit être très inquiet en se disant qu'est-ce qu'on va faire.
Ah oui, donc ça a des conséquences très concrètes, véritablement.
C'est immédiat. Alors, et ça, c'est très important parce que je m'arrête juste là. Mais effectivement, ensuite, il dit nous continuons à discuter avec les alliés pour trouver une solution parce que je suis celui qui va faire le meilleur deal. On est toujours dans la narration à la Trump qui nous explique que le seul capable de résoudre les problèmes du monde, c'est lui.
Isabelle Labéry, la question aussi qui se pose ce soir, il parle d'alliés, mais est-ce que ça veut dire que les autres, c'est-à-dire les Européens, peuvent continuer à entretenir un accord avec l'Iran sans les États-Unis?
Mais c'est ce qu'ils veulent faire, en tout cas. Ils avaient déjà dit, nous resterons dans l'accord. Est-ce que l'accord Irak-1K, c'est compliqué Et que feront les Iraniens? C'est aussi une question. Est-ce qu'eux veulent rester dans cet accord? Ou est-ce que le réquisitoire extrêmement violent de Donald Trump ce soir va entraîner une surréaction iranienne? On connaît la terminologie souvent employée par les dirigeants iraniens, qui c'est à peu près du même tonneau des termes employés par Donald Trump. Les Iraniens peuvent ce soir avoir une réaction extrêmement violente, dire nous retirons de l'accord et nous poursuivons notre programme d'enrichissement nucléaire et notre programme nucléaire. Donc ça risque d'être extrêmement violent. Hassan Rouhani a dit qu'il répondrait dès ce soir aux propos de Donald Trump. Donc on sera assez vite fixé dans les heures qui viennent.
Bien sûr, on va continuer à parler de ce retrait d'accord sur le nucléaire iranien par Donald Trump. Vous avez pu le suivre en direct sur France Info. Dans quelques minutes, nous allons recevoir le vice-président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale pour nous parler justement de la position de la France. Nous aurons également un spécialiste de l'Iran et nous parlerons d'Israël, alors qu'en ce moment même à Tel Aviv, Benjamin Netanyahou est en train de s'exprimer. Et ce soir, nous aurons bien sûr des nouvelles de la manière dont Israël compte profiter ou non de ce retrait des États-Unis, de cet accord sur le nucléaire iranien. On revient dans quelques minutes, c'est juste après le journal.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Rivet, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. À l'instant, Israël, par la voix de Benjamin Netanyahou, se félicite de la décision de Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Accord que le président américain juge désastreux. Il a annoncé ce soir le rétablissement de sanctions économiques contre Téhéran pour l'empêcher, dit-il, de soutenir des activités terroristes.
J'annonce ce soir que les États-Unis vont se retirer de l'accord nucléaire iranien. Dans quelques instants, je vais signer l'ordre présidentiel pour remettre en place les sanctions contre le régime iranien. Nous allons mettre en place le niveau le plus élevé de sanctions économiques possible. Toute nation qui aide l'Iran à acquérir les armes nucléaires pourrait aussi faire l'objet de sanctions par les États-Unis. L'Amérique les États-Unis ne veulent pas être l'otage de l'Iran.
Donald Trump, le président américain ce soir depuis la Maison-Blanche. Le président iranien Hassan Rouhani a prévu de lui répondre dans la soirée. Pas de surprise en Russie, le premier ministre Dmitri Medvedev est reconduit dans ses fonctions. Vote des députés de la Douma sur proposition de Vladimir Poutine. Des complications demain encore à la SNCF avec seulement un TGV sur deux, également 50% de TER et de Transilien. Tandis que chez Air France, il n'y a après les actions de ce mardi aucune autre date annoncée pour de nouvelles perturbations. L'intersyndicale demande à reprendre les négociations avec la direction. Le PDG d'Air France a démissionné vendredi dernier. Muriel Pénicaud, convoquée le 22 mai prochain devant la justice, elle aura le statut de témoin assisté. L'actuel ministre du Travail, qui devra préciser les conditions de l'attribution de la gestion d'un déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas, c'était en 2016. Elle était à la tête de Business France, un organisme public qui avait confié sans appel d'offres cette mission à une boîte de communication. Information judiciaire ouverte pour favoritisme. L'impatience aux Herbiers en Vendée, à une demi-heure maintenant de la finale de la Coupe de France de football. Le club amateur affronte le Paris Saint-Germain au Stade de France. Coup d'envoi donc à 21h05. Nous suivrons évidemment cette rencontre sur France Info. Et puis Cate Blanchett qui déclare ouverte la 71e édition du Festival de Cannes. L'actrice australienne, présidente du jury cette année sur La Croisette, un réalisateur iranien tout un symbole, présente son dernier film en ouverture ce soir, Asghar Farhadi, avec le film Everybody Knows. Vous écoutez France Info à 20h33, la suite des informés avec Jean-Mathieu Pernin.
France Info, édition spéciale. Jean-Mathieu Pernin.
Édition spéciale sur France Info, vous avez pu le suivre en direct, donc ça y est, Donald Trump l'a annoncé, ce que l'on pensait, hein. Les États-Unis se sont retirés donc de l'accord sur le nucléaire iranien, et pour en parler ce soir, nous trouvons autour de la table la chef du service Monde de France Info, Isabelle Labéry, également Eric Scholl, directeur de Courrier International, et nous accueillons pour cette dernière demi-heure David Rigolet-Rose, bonsoir. Alors vous êtes chercheur à l'IFAS, en charge d'une veille stratégique sur les relations entre l'Iran et les pays arabes, et également Jacques Maire, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, député La République en marche. Alors avant de revenir vers vous, tout de suite, nous allons aller à Jérusalem pour rejoindre notre correspondant Étienne Monin, bonsoir.
Bonsoir.
Alors comment Israël réagit ce soir, on a vu Benjamin Netanyahou, aux annonces de Donald Trump?
Benjamin Netanyahou d'abord a réagi quelques secondes après l'annonce de Donald Trump. Évidemment, il considère que c'est une bonne et une décision brave et que continuer avec cet accord aurait permis à l'Iran de se doter d'un véritable arsenal nucléaire. Donc il y a un alignement des positions, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se demander ce soir si ce ne sont pas les positions américaines qui s'alignent sur les positions israéliennes. Benjamin Netanyahou combat cet accord depuis le début. Il alerte sur la situation nucléaire iranienne depuis plus d'une décennie, et on trouve dans les mots du président américain les argumentaires qu'on entend ici en Israël, notamment cette articulation entre cet accord qui permet à la fois à l'Iran de continuer à enrichir, d'après le président américain et le premier ministre israélien, à enrichir l'uranium, et qui n'empêche pas non plus les autres activités, qu'elles soient balistiques ou sur un terrain régional. Il y a donc une très grande satisfaction en Israël, il y a un alignement entre l'Amérique et Israël et une tension dans le nord du pays. L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui et a demandé aux autorités d'ouvrir les abris anti-bombes. Elle a noté des mouvements inhabituels des forces iraniennes en Syrie. Donc il y a une montée progressive de la tension autour de ce discours, mais sur le plan politique, une satisfaction forte du Premier ministre israélien.
Merci beaucoup Étienne Monin, vous étiez en direct donc de Jérusalem. David Rigolet-Rose, qui s'est aligné sur qui alors, Israël et les États-Unis ou les États-Unis sur Israël?
On va dire qu'il y avait une grande convergence de vues des deux côtés, donc de ce point de vue-là, ce n'est pas forcément une surprise. D'abord parce que effectivement c'est la position du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou depuis très longtemps. Oui. Et puis dès le lancement de la campagne par le président Trump, ça a été annoncé aussi très clairement. Donc il y a incontestablement une convergence très importante entre les deux capitales.
Alors Eric Scholl, pourquoi les Israéliens craignent cet accord? Je crois qu'au Conseil des ministres, Benjamin Netanyahou a dit à propos d'un conflit éventuel militaire avec l'Iran, il aurait déclaré « mieux vaut maintenant que plus tard ».
Alors, d'abord, il faut se rappeler qu'en juillet 2015, enfin, pendant toute la période des négociations, Israël a tout fait pour empêcher cet accord, sans y parvenir. Avec l'élection de Trump, Israël a vu qu'il y avait une possibilité, effectivement, de revenir sur cet accord, parce qu'ils ont évidemment très peur de l'Iran. Maintenant, vous regardez aujourd'hui la carte régionale, vous voyez l'influence qu'a pris l'Iran aujourd'hui. D'ailleurs, c'est quand même assez presque paradoxal de voir à quel point même l'Arabie Saoudite s'est rapprochée aujourd'hui d'Israël, parce qu'il y a un ennemi aujourd'hui commun qui est l'Iran. Et les élections qui ont encore eu lieu ce week-end au Liban, avec la victoire du Hezbollah, donc soutenue par l'Iran, ne fait que confirmer cette emprise de l'Iran sur le plan régional.
C'est pour ça que ce soir, Étienne Moulin parlait d'une crainte pour Israël au nord du pays, c'est-à-dire le plus proche du Liban, parce Bien que sûr. C'est là où se trouvent les troupes du Hezbollah, David Rigoulet-Rose.
Oui, d'ailleurs, le nouveau chef de l'AMAN, c'est-à-dire les services de renseignement de l'armée, c'était un ancien responsable militaire, justement, du Front Nord. Donc, il connaît parfaitement. Et c'est il est issu des blindés. Donc, D'accord. Il connaît très bien la situation. Et donc, ils anticipent effectivement qu'il puisse y avoir des problèmes très, très sérieux au niveau du Front Nord.
Alors, une chose, David Rigoulet-Rose, tout à l'heure, Isabelle Labéry nous disait qu'aussi les Iraniens avaient aussi pour habitude de réagir d'une manière un peu sanguine, presque. Est-ce que ce soir, on sait à peu près comment ils vont réagir. On se souvient quand Emmanuel Macron était revenu de Washington, il avait un peu soufflé dessus, que ça avait été un peu violent. Et ça va être ce soir, on imagine, une grosse réaction.
Mais on va voir justement, c'est ça qui va être intéressant, ces réactions des Iraniens, parce qu'elle a un peu fluctué. Au début, elle était très sur une ligne, à partir du moment où il y aura un retrait américain, on fera la même chose. Il y avait même certaines déclarations qui allaient plus loin sur la remise en cause du TNP, ce qui est considérable. Et puis la dernière déclaration du président Rouhani, c'était que bon, s'il y avait une remise en cause, éventuellement, on pourrait travailler avec les Européens qui seraient disposés à pallier ce D'accord. déficit américain. Donc là, la situation est différente, parce que probablement, on n'a pas forcément anticiper le fait que ça serait la ligne la plus dure qui serait choisie par le président Trump. Il y avait d'autres options intermédiaires, de rétablissement partiel des sanctions, etc. Là, manifestement, il a fait le choix de la ligne la plus dure, qui est conforme d'ailleurs aux deux nominations qu'il vient de faire avec John Bolton et puis Mike Pompeo.
Oui, c'est ça, Isabelle Labéry.
Oui, d'ailleurs, on attendra pas très longtemps avant d'avoir la réponse des Iraniens, parce qu'on voit que Hassan Rouhani est en train de s'exprimer. Je voulais juste ajouter un mot sur l'attitude des Européens.
Oui, bien sûr.
Pour l'instant, alors Emmanuel Macron a tweeté. Après le discours de Donald Trump, il a expliqué que la France et les partenaires de l'accord initial travailleraient collectivement à un cadre plus large. Donc, Federica Mogherini, qui est aussi la porte-parole de la diplomatie européenne, a elle aussi tenu conférence de presse pour dire « nous voulons maintenir cet accord ». Donc, il y a une volonté européenne de dire « les États-Unis s'en vont, on va essayer de continuer quelque chose ensemble après ». Ça semble malgré tout compliqué.
Alors, Jacques Mer, c'est ça, ce soir, la parole aujourd'hui officielle de la France, vous êtes vice-président de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, continuer un accord, même sans les Américains?
D'abord, c'est un immense gâchis, il faut commencer par le début, ouais. Et on a l'impression qu'effectivement, 7 à 8 ans de travail diplomatique intense dans lequel la France a joué un rôle important, y compris dans le précédent quinquennat, où Laurent Fabius s'est mouillé pendant des années... où le Congrès américain a toujours d'ailleurs fait état de son opposition, où le président Obama a fait les gestes qu'il convenait, on arrive maintenant à une situation qui est extrêmement dangereuse, qui est assez imprévisible. Et effectivement, les seules, postures qu'on peut prendre quand on est européen et quand on n'est pas totalement iranophobe, mais simplement rationnel par rapport à ces questions, c'est d'essayer de calmer un peu le jeu.
Ça semble compliqué, non? Là, quand on voit les mots employés par Donald Trump ce soir.
C'est très compliqué pour une raison bien simple. C'est que la contrepartie, effectivement, d'un gel ou d'un renforcement du contrôle sur le sujet nucléaire, qui est d'ailleurs pratiquement pas contesté par Donald Trump, qui ne conteste pas le fait que globalement l'accord fonctionne, c'est la levée des sanctions économiques. Or, la levée des sanctions économiques, s'il y a une sanction américaine à la clé pour ceux qui lèvent ces sanctions économiques, est simplement aujourd'hui, pas possible.
Allez, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h40, Lauriane Delanoë.
La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision de Donald Trump ce soir. Voici la réaction d'Emmanuel Macron sur Twitter, quelques secondes seulement après l'annonce du président américain. Les États-Unis se retirent donc de l'accord sur le nucléaire iranien. Les sanctions contre l'Iran rétablies dès ce soir. D'après Donald Trump, le traité était censé protéger les Américains et leurs alliés, mais il a permis à l'Iran de continuer d'enrichir de l'uranium. C'est ce qu'affirme le président des États-Unis. Il promet maintenant de discuter avec ses alliés pour empêcher le régime iranien de développer l'arme nucléaire. L'Iran qui dénonce à l'instant une décision illégale. Les hôpitaux de Strasbourg ouvrent une enquête administrative après la mort d'une patiente de 22 ans en décembre dernier. Cette jeune mère, moquée par les opératrices du SAMU quand elle leur disait qu'elle allait mourir, on lui conseille alors d'appeler SOS Médecin. Naomi est morte quelques heures plus tard. La direction d'Air France refuse la reprise de négociations sur les salaires. C'est ce que demandait aujourd'hui l'intersyndicale après 15 journées de grève. Aucun nouveau préavis déposé pour l'instant. Et le 71e festival Festival de Cannes est désormais ouvert. Déclaration traditionnelle il y a quelques minutes par Martin Scorsese et Cate Blanchett, la présidente du jury cette année.
France Info.
France Info, édition spéciale. Jean-Mathieu Bernard.
Édition spéciale sur France Info, car eh bien on l'a imaginé toute la journée. On s'est demandé ce que Donald Trump allait faire à propos de cet accord sur le nucléaire iranien. C'était tout à l'heure sur France Info. Il était à peu près 20h22 et 22 secondes. Voilà, on va rester ça comme ça. Et voilà ce que le président américain a déclaré.
Il me paraît clair que nous ne pouvons pas empêcher la bombe nucléaire iranienne en vertu de l'accord pourri qui a été signé. Donc l'accord iranien est fondamentalement vicié. Donc si nous faisons rien, nous savons exactement ce qui se passera. En très peu de temps, le principal parrain du terrorisme sera sur le point d'acquérir l'arme la plus dangereuse au monde. Par conséquent, j'annonce ce soir que les États-Unis vont se retirer de l'accord nucléaire iranien.
Voilà, Donald Trump, donc, tout à l'heure, pour cette annonce. David Rigolet-Rose, on avait vu des signes, finalement, d'ouverture sur l'Iran. À propos de l'Iran, on imaginait, voilà, on parlait même de nouvelles puissances, qu'il y aurait peut-être des visites de chefs d'État de nouveau en Iran. Est-ce que ce genre de décision, est-ce que ça a réduit à néant tous les efforts diplomatiques?
Ah là, il y a une grosse hypothèque, c'est sûr, sur la suite du processus. Il y a un point d'interrogation. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer, compte tenu de la dureté de l'annonce qui a été faite. Et puis des réponses éventuelles des Iraniens, surtout avec le rétablissement des sanctions. Alors le problème, c'est que de toute façon, il y avait déjà une situation tendue parce que les entreprises occidentales avaient du mal à s'implanter, à prendre le risque de s'implanter en Iran, à cause justement d'un certain nombre de dispositifs américains, notamment liés à l'OFAC, hein, qui est l'office qui régule les opérations à l'étranger des entreprises. Et donc le fait Total était significatif. Total a été suspendu d'une certaine manière pour son investissement à la décision de Donald Trump. On peut penser là que le projet Total est largement hypothéqué, évidemment, et donc ça soulève beaucoup de questions, mais au-delà, ça va être la réponse de l'Iran par rapport à son environnement régional qui va percevoir de nouveau comme extrêmement menaçant pour lui, ce qui était moins le cas avant.
Et donc, ouais, alors justement, Eric Scholl, est-ce que ce soir aussi, il y a une défaite de l'Europe ce soir, de ne pas avoir réussi à convaincre Donald Trump. Ce soir, Emmanuel Macron a annoncé qu'il ne ferait pas de déclaration. Il a fait un tweet où il met tout le monde ensemble, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Là, il ne parle plus de la France seulement. Il dit que c'est sur l'Europe. Est-ce que c'est un échec européen?
D'abord, c'est les trois pays qui étaient signataires. Mais le fait est qu'il y avait aussi la Commission européenne qui avait adoubé cet accord. Et l'Union européenne a tenté à un moment d'avoir une position commune vis-à-vis des États-Unis. Ils n'y sont pas arrivés. D'accord. Parce qu'il y avait d'autres pays en dehors de la France. Il y avait d'autres pays qui ne souhaitaient pas avoir une position commune pour des intérêts économiques. Donc on a vu que effectivement il y a eu ce voyage d'Emmanuel Macron, il y a eu celui de la chancelière allemande, il y a depuis deux jours, il y a eu Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères britannique, mais on a bien vu que ça n'a servi à rien, parce qu'en réalité il était déterminé. Non seulement Trump était déterminé, mais depuis le mois de janvier, il avait mis plus ou moins la balle dans le camp européen en disant à vous de me faire des propositions sur toutes les critiques qu'il a faites tout à l'heure, c'est-à-dire à vous de me dire comment on peut corriger cet accord. Et puis là il a dit on ne peut pas corriger cet accord, donc si on le corrige ça sera moi qui le ferai. Et c'est là où il dit je suis prêt à reprendre la négociation, mais à réimposer mes conditions.
Jacques Maire, est-ce qu'il n'y a pas eu un excès de prétention de la part d'Emmanuel Macron à tenter, à penser, faire trembler Donald Trump et à le faire changer d'avis sur ce sujet quand il est parti à Washington?
Un excès de prétention, on est très engagé dans cette affaire. On porte un poids politique très fort d'ailleurs. L'accord a été conclu, y compris après un rapport de force franco-américain important pour crédibiliser encore plus l'accord. Donc le rôle de leader français sur cet accord au sein de l'Union est quand même un rôle qui était relativement ancien. Ensuite, il n'aurait pas fait il n'aurait pas eu cet engagement, on l'aurait effectivement fortement critiqué. Et puis aujourd'hui, il n'y a pas de plan B non plus. C'est-à-dire que c'est pas parce que...
Bah, je pensais qu'il y en avait un, justement, Jacques Maire.
C'est pas parce que...
Non, on nous a annoncé un plan B. Les propositions, je les ai sous les yeux, là. C'était d'engager des négociations en vue d'un nouvel accord cadre qui comporterait trois sujets, l'après-accord, le programme balistique iranien, l'expansion régionale de l'Iran. Donc il y a un plan B.
Si l'accord est confirmé.
D'accord.
Si l'accord n'est pas confirmé, si on repart à zéro, avec qui? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Iraniens vont vouloir négocier? alors qu'ils seront sous sanctions renforcées. C'est quand même, je dirais, une vue de l'esprit. Donc peut-être que M. Trump a une vision de sa propre performance qui, je dirais, correspond à son ego habituel. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la négociation est encore plus difficile maintenant qu'elle ne l'était auparavant pour avoir un plan B.
Isabelle Labéry, on pensait, voilà, Emmanuel Macron, on pensait aussi voilà, peut-être faire changer d'avis Donald Trump sur le sujet quand il est parti aux États-Unis.
Oui, alors.
On l'a vu surpris quand il l'a annoncé au bureau Oval, on
le
sait.
Oui, il y a eu des communiqués qui sont sortis de la rencontre Trump-Macron qui avaient des tonalités assez différentes selon qu'ils émanaient de l'Élysée ou de la Maison-Blanche. Mais Emmanuel Macron était assez lucide, malgré tout. Il avait compris qu'il ne réussirait pas à garder Donald Trump dans le bateau. Ça me semblait assez, ça semblait assez évident.
Oui, c'était évident aussi, David Rigolet-Rose.
Oui, je pense que le président Macron s'est jamais fait beaucoup d'illusions. Il espérait sans doute quand même arrondir un certain nombre d'angles justement par ses propos, sa dialectique des quatre piliers, c'est-à-dire maintenir l'accord qui est le noyau dur proprement dit, et puis pour contenter les revendications américaines qui ne sont pas totalement sans fondement, il faut être objectif, c'est-à-dire que la question de l'après 2025 est un vrai problème qui a été minoré au moment de la signature de l'accord, c'est vrai, et d'une certaine manière on paye aussi le prix de ça, mais du coup on va là on se retrouve devant un mur.
Alors juste David Rigolet-Rose, ce soir on parle, tout à l'heure j'ai parlé Benjamin Netanyahou, lui qui se réjouit, qui parlait peut-être de guerre. Est-ce que, clairement, vous connaissez bien l'Iran, est-ce qu'il y a un risque de conflit entre ces deux nations ce soir ?
Pas forcément directement, mais il y a un risque très, très, très élevé, de plus en plus élevé, d'affrontements plus ou moins directs, notamment en Syrie, parce que les Iraniens souhaitent des implantations pérennes, ce qui est une ligne rouge absolue pour Israël. Et donc, Israël anticipe effectivement un conflit à venir, et ça a été dit de manière très explicite, des préparatifs militaires sont en cours, et manifestement, les deux parties sont de plus en plus déterminé, donc on voit pas très bien comment les choses pourraient se finir dans un cadre plus pacifié.
Pacifié, oui, Eric Scholl.
Oui, d'autant plus que ça a même déjà commencé, puisqu'on a eu des frappes qui ne sont pas revendiquées telles quelles par Israël, mais il y a eu des frappes israéliennes sur la Syrie au cours des deux derniers mois. Et donc on voit qu'on est dans une sorte de monte d'escalade en ce moment de la tension, plutôt de la violence, qui peut se faire en Syrie. Le Liban peut aussi être un endroit d'affrontement. Il y a cette probabilité d'une guerre, ce scénario-là circule de plus en plus, ça fait plusieurs mois qu'on en parle, mais qui circule de plus en plus aujourd'hui.
David Rigolet-Rose,
oui, y compris à Washington, puisque le chef du Pentagone, James Mattis, a évoqué explicitement le fait que la probabilité d'un conflit ouvert entre Israël et Iraniens ou ses affidés était très élevée, de plus en plus élevée et quasi inévitable.
Oui, Isabelle Labéry.
Et risque d'autant plus élevé qu'Hassan Rouhani, aujourd'hui, est en difficulté. Il va clairement être mis sur la sellette par les conservateurs, par les radicaux, qui eux vont sans doute prendre des positions très différentes.
Et il continue à parler d'ailleurs en ce moment, donc je pense qu'il va essayer de battre la durée du discours de Donald Trump. On va en savoir un peu plus dans quelques minutes concernant la position iranienne. L'info à 20h50, Lauriane de Hanoï.
L'Iran dénonce la décision des États-Unis de sortir de l'accord sur le nucléaire. La télévision d'État iranienne la juge illégale et illégitime. Donald Trump quitte donc l'accord et rétablit dès ce soir les sanctions contre l'Iran. Le président américain affirme que le régime iranien a menti et que les mécanismes du texte ne permettent pas d'empêcher l'Iran de tromper le monde. Son but maintenant, c'est de discuter avec les alliés pour, je cite, trouver une solution durable et réelle face à la menace nucléaire iranienne. Emmanuel Macron indique sur Twitter que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni regrettent ce choix, mais le président français veut travailler collectivement à un cadre plus large sur l'activité nucléaire pour la stabilité au Moyen-Orient. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini, se dit pour sa part déterminée à préserver le traité actuel. 16e jour de grève demain à la SNCF. La moitié des TGV, des TER et des Transiliens circuleront. Comptez un intercité sur trois et des perturbations sur les lignes B et C du RER. Les uns veulent soulever leur quatrième coupe d'affilée. Les autres espèrent au moins marquer un but. Le Paris Saint-Germain face aux Herbiers, club vendéen de National. Ce soir, c'est la finale de Coupe de France de football dans moins d'un quart d'heure au Stade de France.
France Info. France Info, édition spéciale. Jean-Mathieu Bernard.
Et dans cette édition spéciale, on va juste faire une toute petite pause. Hein, vous l'avez entendu parce que sur France Info, vous pourrez suivre également pendant toute la soirée un match de foot. Et oui, parce que c'est la finale de la Coupe de France de football. D'ailleurs, Emmanuel Macron est sur place au Stade de France. Et peut-être le savez-vous, mais cette finale oppose les Herbiers face au Paris Saint-Germain. Et sur place, on retrouve Jacques Vendroux. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, il y a une question. Le PSG peut-il faire face aux Herbiers ce soir, Jacques?
Le Paris Saint-Germain doit normalement gagné contre les Herbiers, club de national. On sait que l'entraîneur de l'équipe des Herbiers a pris une décision importante tout à l'heure. Il a demandé que les joueurs imitent entre guillemets les joueurs de l'US Quevilly, club de national, qui en 2012 avait perdu seulement 1-0 contre l'Olympique Lyonnais en se disant « tenons 10 minutes par 10 minutes ». Et on va essayer de mettre en difficulté le Paris Saint-Germain. Si au bout de 10 minutes c'est toujours 0-0, eh bien espérons de 20 minutes plus tard toujours 0-0. Voilà le timing qu'a décidé l'entraîneur, et c'est vrai, pourquoi pas. En tous les cas, le match va débuter à 21h05 pour être précis.
Et on vous suivra bien sûr sur place. Merci beaucoup Jacques Vendroux. Donc les Herbiers face à Paris Saint-Germain. Nous, on va revenir sur l'actualité du soir. Hein. Bien sûr, c'est le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire uranien. Jacques Maire, est-ce que une construction, est-ce que vous imaginez aujourd'hui cet accord sans les États-Unis, tout simplement? Est-ce que c'est possible? Quand on le voit sur les sanctions économiques, quand on voit autre chose, que ça a des répercussions.
Il y a deux parties. Il y a la partie des signataires occidentaux et puis il y a la partie iranienne. Pour la partie des occidentaux, si les États-Unis se retirent, on voit bien que les autres, eux, sont très attachés à l'accord et ont manifesté leur souhait de le maintenir. Du côté iranien, d'abord, la partie n'a jamais été jouée par une équipe homogène. Il y a Rouhani, il y a le ministre des Affaires étrangères, et puis il y a les autres. Et les autres, ils sont nombreux, et ils sont plutôt anti-accord pour une bonne part d'entre eux. Est-ce qu'ils vont laisser, effectivement, le bénéfice, le président imaginer un dispositif intérimaire, temporaire, d'application partielle, sans garantie vis-à-vis des Américains? Moi, aujourd'hui, j'en doute. Ouais. Je pense que ça vaut le coup, évidemment, de faire cette offre du point de vue occidental vis-à-vis des Iraniens. Ça vaut le coup aussi de faire en sorte que les Iraniens fassent pas forcément le choix du pire immédiatement, mais qu'ils voient qu'ils ont des gens qui les comprennent et qui sont capables d'être en négociation avec eux. Après, le débat au sein de l'Iran lui-même, à mon avis, sera un débat très compliqué.
Alors, David Rigoleros, ce soir, le président Rouhani, iranien, donc, a annoncé qu'il était prêt à reprendre les activités nucléaires. On continue finalement dans l'escalade.
Oui, c'est pas surprenant. Ça avait été annoncé manière quasiment par la plupart des représentants de l'Iran. Alors, il met pas la barre la plus haut possible en menaçant d'une sortie du TNP, comme avait pu le faire le conseiller à la sécurité.
Traité de non-prolifération.
Oui, traité de non-prolifération, puisque ça a été une déclaration qui a été faite par le chef du conseil de sécurité nationale, l'amiral Shahrani. Et bon, on n'en est pas là. Mais enfin, en tout cas, ça augure de choses quand même compliquées pour la suite des événements.
Isabelle Labéry, on a appris ce que disait tout à l'heure Eric Scholl. Il parlait de cet axe Israël-Arabie Saoudite. Ce soir, l'Arabie Saoudite salue également la décision de Donald Trump. On voit bien que ce sont des alliés américains dans la région.
Oui, sans surprise, les fractures ne changent pas. Enfin, les grandes lignes de force dans la région vont se renforcer, mais pas changer.
Eric Scholl, quand on voit aujourd'hui l'Union européenne, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, donc vous l'avez dit, aujourd'hui, ce sont eux qui ont signé cet accord.
Pas que, il y a aussi l'Union européenne. Il y a la Chine.
Voilà, exactement. C'est ça. Quel rôle justement ils peuvent jouer? Est-ce que c'est la Russie maintenant derrière qui va reprendre, qui va aider, ou l'Union européenne a vraiment une place aujourd'hui avec la France?
Ça paraît, paraît extrêmement compliqué de préserver cet accord, même si la volonté est là et il y a envie de le faire. Ce qu'on voit, parce que maintenant, si on se place du côté iranien, les Iraniens, ils n'ont pas vu beaucoup les fruits de cet accord. Et c'est ça qui est... Cet accord, il a été signé en juillet 2015. Les sanctions, la levée des sanctions a eu réellement lieu en janvier 2016, mais en réalité, il y a eu effectivement une partie des sanctions qui ont été levées, mais dans la vie quotidienne des Iraniens, on n'a rien vu. Et c'est ce qui explique en partie, rappelez-vous ce qui s'est passé en fin d'année dernière, en décembre, il y a eu des manifestations importantes, parce que l'économie va très mal, on a des incertitudes qui sont très fortes, on a une monnaie iranienne qui est en train de chuter, qui a perdu 30 ou 40% au cours des mois derniers. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui sur le plan économique iranien. Alors, ça, et là-dessus, la levée des sanctions n'a pas apporté ce que, en tout cas, le pouvoir pouvait espérer. Parce qu'en réalité, il n'y a pas que ces sanctions qui asphyxient l'économie. Il y a aussi, je dirais, la corruption, l'état
des choses. Bien sûr. David Rigoleros.
Oui, il y a un double paradoxe d'ailleurs, parce qu'il y a eu quand même du cash qui est rentré avec le levée de l'embargo pétrolier. En revanche, ce qui n'est pas rentré, ce sont les investissements directs étrangers, parce que là, ça posait un autre problème.
Le cash, c'est ce qui est dénoncé par Donald Trump d'ailleurs.
Oui, le mais cash, alors, c'est le paradoxe, cash, parce que c'est le cash, quand il évoque les 100 ou 150 milliards, c'était ce qui était mis sous séquestre. C'était pas.
D'accord.
C'était
pas gelé à cause des sanctions.
Oui, c'était pas un don américain. Ouais. Donc, je veux dire, il faut quand même être clair là-dessus, parce que si ça peut entretenir l'ambiguïté. Alors, le paradoxe aussi de vous évoquer la difficulté et les inquiétudes de la population iranienne, qui est. Et le paradoxe, c'est que l'Iran a aujourd'hui dollarisé son économie depuis le 10 avril dernier, justement à cause de l'effondrement de la monnaie, du rial, et parce que c'était l'idée de limiter l'inflation. Mais donc, d'une certaine manière, il dollarise avec la monnaie de l'ennemi déclaré.
Juste pour terminer, Jacques Maire, tout à l'heure vous l'avez dit, Richel, c'est. En fait, il y a un accord, c'est un accord de l'ONU, là, dont vient de partir Donald Trump. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'ONU a perdu ses institutions. Aujourd'hui, internationales, représentent-elles encore véritablement quelque chose?
Bon, c'est pas un accord, je veux dire, juridiquement validé par l'ONU aujourd'hui. C'est un
accord. Mais qui a été fait sous l'égide, tout de même.
Oui,
mais
cautionné. Oui, cautionné. Voilà, cautionné. Mais on n'est pas dans un ordre juridique du traité classique multilatéral. C'est un accord qui, effectivement, fait l'objet d'un soutien très fort des Russes et des Chinois aujourd'hui. C'est peut-être aussi l'occasion de retrouver, je dirais, des convergences avec d'autres acteurs sur le terrain. Qui ont une influence sur l'Iran et qui peuvent faire passer aussi des messages.
Eh bien, j'imagine bien sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler. Bien sûr, l'édition spéciale continue sur France Info. Je vous remercie, David Rigoleros. Vous êtes passé ce soir. Merci, Jacques Maire, Éric Scholl également. Et Isabelle Labéry, vous, bien sûr, vous continuez, j'imagine encore, pour de longues heures derrière l'édition spéciale. Sur France Info, continue dans quelques minutes.